poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais. Nous allons partir à la découverte des Amériques avec Christophe Colomb.
La tempête fait rage sur l'Atlantique et l'océan bat ses lames impétueuses les rives de l'île de Madère. Juché sur un promontoire, Christophe Colomb lance aux éléments en furie le défi de son regard conquérant, porté témérairement jusqu'à l'infini de l'Ouest encore vierge. Parmi tous les intrépides marins qui, en cette fin du XVe siècle, se préparent à ouvrir la route occidentale des Indes, il s'est juré d'être le premier. Dut-il se jeter dans la gueule écumante du fauve déchaîné qui, devant lui, fait la démonstration de sa puissance et n'a jamais jusqu'ici relâché ses proies. Mais voici que de la nuée des embruns surgit un navire en perdition. Mât cassé, voile déchirée, c'est un miracle s'il vogue encore. Réapparaissant comme un revenant de l'enfer, après que chaque déferlante l'eût englouti, l'esquif blessé se sait condamné, mais veut mourir au port. De cette lutte inégale, Christophe Colomb connaît déjà l'issue. Mais pour le chrétien qu'il est, il n'est pas de cause désespérée. Uni aux infortunés par la fraternité des gens de mer, il couvre la voix de l'ouragan des accents du Salve Regina, priant l'étoile de la mer d'arracher ses malheureux frères à l'abîme, soit pour leur donner de poursuivre encore leur périple terrestre, soit pour les conduire au havre du paradis. Cependant, le navire est drossé sur les récifs dont les crocs entaillent à mort ses flancs. Christophe Colomb se précipite sur la plage face au naufrage. Là, au milieu des épaves, il recueille dans ses bras le capitaine agonisant. Dans son délire, avant de rendre son âme à celui qui sauve tout homme et apaise toute tempête, le valeureux marin ne parle que des Indes, tendant son index vers le couchant, jusqu'à épuisement de ses dernières forces. Sur le défunt, Christophe Colomb trouve un portefeuille de cuir enfermant un journal de bord et une carte marine à peine délavée par les eaux. L'homme se révèle être Alfonso Sanchez, natif de Huelva, en Andalousie, un aventurier des mers, jouissant à l'époque d'une certaine renommée. Mais voici que Christophe Colomb déplie la carte et tombe de saisissement. C'est l'itinéraire qui mène en Asie, par l'Atlantique. Alfonso Sanchez a réussi la traversée que tout le monde estimait impossible avec les moyens techniques de l'époque. Comment a-t-il pu franchir les 11 000 marins qui séparent l'Europe de l'Asie par la route de l'Ouest et revenir? Après une longue et minutieuse étude de la carte, Christophe Colomb découvre qu'une terre y figure, au bout de l'océan Atlantique, à seulement 2500 miles des côtes européennes. Il existe donc une terre asiatique inconnue à portée de navire. Ainsi se déroula probablement l'initiation de Christophe Colomb, même si les détails de cet épisode ne sont que conjonctures. Les faits essentiels en sont aujourd'hui considérés comme établis. Fort de son secret, Christophe Colomb met une indomptable énergie à obtenir de la reine Isabelle la catholique que le royaume de Castille finance et patronne une expédition. L'accord longtemps différé par l'âpreté aux gains de Colomb est finalement scellé, prévoyant pour le découvreur la vice-royauté sur les terres nouvelles et un pourcentage de 10% sur toutes les transactions qui en seraient issues. Ne cessant de mettre ses pas dans ceux d'Alfonso Sanchez, c'est à Huelva que Christophe Colomb monte l'expédition. Là, il retrouve les franciscains du couvent de la Rabida, qu'il avait accueilli en 1485 à son arrivée en Espagne. Sous leur influence, Christophe Colomb développe la mystique qui sous-tendra toute son épopée. Il sera le Messie qui inaugurera sur les terres nouvelles le troisième et ultime âge de l'humanité, celui de l'Esprit-Saint. Enfin, le 3 août 1492, avec deux caravelles et une grosse nao, servie par 87 hommes, Christophe Colomb quitte la ria de Huelva et pousse vers l'ouest, via les Canaries, où il fera escale pour renouveler ses vivres. Par la route des Alizés, avec une sûreté étonnante, il atteindra les îles Lucayes, au nord de Cuba, dans la nuit du 11 au 12 octobre. De là, il gagnera Cuba, puis Haïti, avant de regagner l'Espagne, par la route des Açores, ramenant avec lui 7 Indiens, des perroquets et un peu d'or. Un an plus tard, le 25 septembre 1493, Christophe Colomb repart vers les Indes nouvelles à la tête d'une expédition royale d'ampleur considérable pour l'époque, 17 navires portant 1500 hommes, dont un délégué apostolique et deux missionnaires franciscains. Car dans les instructions données par Isabelle la catholique à Colomb, figure en premier lieu l'invitation à convertir les Indiens et l'obligation de bien les traiter avec beaucoup d'amour, de telle manière que s'établisse avec eux une communication dans la plus grande cordialité, fermée les guillemets. Tandis que le tout nouveau vice-roi vogue vers ses terres, son âme est le champ d'un violent combat entre les deux puissances qu'il habite. D'un côté, l'élan de la mission religieuse dont il est plus que jamais persuadé d'être investi. De l'autre, la soif inextinguible de pouvoir et d'or qui l'anime depuis toujours. La Providence, qu'il avait déjà si bien enrôlé dans ses desseins, avait tout disposé pour que le bien triomphât. Ce n'était pas d'oppression dont les indigènes des Indes nouvelles avaient soif, mais de libération. Et dans le dénuement extrême où ils avaient été trouvés, il n'y avait rien à leur prendre et tout à leur donner. Car dans les îles découvertes, les Indiens Tainos étaient des sauvages primitifs qui vivaient dans la misère la plus noire. Réduits à se nourrir que de végétaux glanés, ils étaient d'une extrême fragilité physique et intellectuelle parce que sous-alimentés depuis des générations. Si Christophe Colomb était tombé sur l'Eldorado de ses rêves, il eût pu concilier les forces antagonistes de sa conscience, enrichir les indigènes de la richesse qui ne passe pas, tout en faisant fructifier à son profit leur richesse qui passe. Mais en l'occurrence, il fallait d'abord leur rendre leur dignité d'homme avant qu'ils ne fussent aptes à recevoir la dignité de chrétien. La multiplication des pains devait, là encore, précéder l'Eucharistie. Ainsi, plus grandes sont les bénédictions de la Providence, plus exigeante est la radicalité des choix qu'elle impose. Comblé de grâce, Christophe Colomb ne pouvait que choisir d'être un autre Jésus ou un autre Judas. La cupidité l'emporta. Et Christophe Colomb, ne trouvant d'autres moyens de s'enrichir, se résolut à vendre ce que Dieu lui avait donné mission de servir. Dès 1495, Christophe Colomb envoie d'Amérique un premier bateau rempli d'esclaves indiens qu'il fait vendre en Europe. Isabelle, la catholique, apprend la chose et donne l'ordre de réunir les malheureux et d'affréter un bateau pour les ramener libres chez eux. De retour en Espagne un an plus tard, Colomb est fermement admonesté par la reine. Il s'en tire en faisant étalage de la mystique religieuse, de façade désormais, qu'il donne à sa seigneurie sur les Indes nouvelles. Il repart en 1497, renforcé dans ses pouvoirs. Cependant, les bateaux d'esclaves continuent d'affluer en Europe et dans les îles mêmes. La servitude est généralisée. Averti par le visiteur apostolique rentré en Espagne et par les lettres des franciscains demeurés sur place, Isabelle la catholique décrète la peine de mort aussi bien pour ceux qui font le trafic d'esclaves que pour ceux qui l'ont fait et ne prennent pas toutes les dispositions pour amener les Indiens chez eux, libres. Et bientôt la reine envoie en Amérique un héros de la Reconquista, le commandeur de l'ordre militaire de Santiago, François de Bobadilla, avec les pleins pouvoirs d'enquête. Effaré par la situation qu'il constate sur place, il fait arrêter Christophe Colomb et le renvoie enchaîné en Espagne. Colomb comparaîtra en octobre 1500 devant la reine. Sauvé par la force de sa plaidoirie et par son prestige de découvreur, il échappe au châtiment suprême. Il n'en est pas moins destitué de tous ses pouvoirs. Voilà donc Isabelle la catholique directement investie de la colonisation et de l'évangélisation de l'Amérique, dont on sait maintenant qu'elle est un continent nouveau et dont on entrevoit l'immensité et la pluralité. Avant tout, elle donne force de loi à une nouvelle instruction, assurant à tout moment et en toutes circonstances la protection des Indiens. Cette véritable déclaration des droits de l'homme affirme avec force que tous les habitants des terres nouvelles découvertes ou à découvrir sont des hommes libres, sujets protégés de la couronne de Castille. Isabelle y ajoute que les Indiens doivent être informés de notre sainte foi avec beaucoup d'amour, sans exercer sur eux la moindre contrainte. Dès lors, à partir de 1501, Isabelle commencera à mettre en œuvre un vaste programme destiné à assurer la protection, l'éducation et l'évangélisation de ses protégés du Nouveau Monde. Hélas, dès 1504, celle qui avait dit « Ma vie s'écoule dans la main de Dieu comme l'eau d'une rivière dans son lit » rejoint l'estuaire auquel elle aspirait de toute son âme, allant se fondre dans l'océan infini des célestes béatitudes. Après la mort d'Isabelle la catholique, pendant 20 ans, l'Espagne allait être livrée à une grave instabilité politique. Instabilité dont profitèrent nombre de conquistadors pour imposer impunément aux Indiens les effets de leur cruelle rapacité. Ce ne sera qu'à partir de 1524, quand Charles Quint aura réussi à asseoir son pouvoir et instituer le Conseil des Indes, que progressivement les Indiens retrouveront protection royale, retrouveront leurs droits. Alors seulement, librement, un bon nombre se convertira au Christ. Retrouvez les poussières d'étoiles sur le net, en audio ou par écrit, poussièresd'étoiles.fm, poussièresd'étoiles au pluriel, .fm.